Radio Stardust.
Morning edition from NPR News.
Kicking sand in the house.
Radio News and a deep radio.
Que se reproduce y hace en la radio.
France Inter. Le 18-20.
C'est un des martyrs, je me rappelle de leur visage. Très souvent, ils me reviennent dans la tête, des gens que je croisais qui ne sont plus. Mais malgré tout ce qu'ils nous ont fait, ils ne peuvent pas tout effacer, nous faire oublier ces gens.
On ne peut pas oublier ces gens, leurs visages sont gravés, ils sont photographiés, ils sont dessinés par des artistes syriens réfugiés au Liban, des artistes qui, bon an, mal an, ont repris leur travail et exposent aujourd'hui. C'est chez eux et face à leur travail qu'Aurélien Colli va vous emmener, c'est l'escale reportage aujourd'hui. Sous les radars et Amélie Perrier en Norvège ce soir pour des très grandes manœuvres de l'OTAN au Brésil chez les psys qui soulagent avant l'arrivée de l'extrême droite avec un haricot aussi en Afrique. 18h50 puisqu'un homme sur deux est une femme, Julia Foyce. Eh bien, surprise, tiens, vous découvrirez ce que Julia a déniché dans le monde pour ou contre d'ailleurs les femmes. 18h55, Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Il manque un acteur dans cette affaire épouvantable de Jamel Khashoggi. C'est l'Iran. Que dit l'Iran, le grand ennemi de l'Arabie Saoudite? Mais d'abord, c'est en Afghanistan, pas très loin, donc que je vous emmène. On commence à dépouiller le vote d'il y a deux jours, mais c'est pas gagné. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Très loin, pas si loin en tout cas. Elle devait être un test à plus d'un titre, ces fameuses élections législatives en Afghanistan qui se tenaient donc samedi et dimanche. Les résultats ne seront pas connus avant le 10 novembre ou autour du 10 novembre. Déjà un chiffre quand même, plus de 300 attaques, presque 40 morts dans une quinzaine à Kaboul même. Des files d'attente dont on ne sait pas très bien si elles démontrent la volonté de voter ou simplement une organisation mal fichue. Un chaos en tout cas de toute façon persistant. Bonsoir Jean-Luc Racine.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur senior au think tank Asia Centre. Je le disais, un test pour beaucoup, à bien des égards en fait, un test pour l'exécutif, un test pour la légitimité aussi du pouvoir, sur sa capacité aussi à organiser un scrutin, puisqu'on n'oublie pas qu'il est censé y avoir des élections présidentielles au mois d'avril. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant qu'on dépouille? Est-ce que c'est bien que ce scrutin ait lieu, aussi imparfait soit-il, ou est-ce que ça ne ressemble pas à grand-chose?
C'est bien qu'il ait eu lieu. D'autant plus qu'il a eu lieu avec beaucoup de retard, avec trois ans de retard. Et il a eu lieu maintenant, c'est pas tout à fait un hasard, parce que pour le régime du président Ashraf Ghani, élu en 2014, dans des élections qui avaient été aussi compliquées, il y a une échéance le mois prochain, en novembre, à Genève, où va se réunir un certain nombre d'éléments de la communauté internationale qui décident et qui décidera en fait de poursuivre le soutien à l'Afghanistan,
les bailleurs,
mais il y a depuis des années des conditionnalités, l'une d'entre elles étant des progrès dans la gouvernance et dans le fonctionnement de la démocratie, si on l'appelle comme ça.
Mais
et évidemment, les élections, c'est aussi un signal pour la communauté internationale.
Mais du coup, Monsieur Racine, est-ce qu'on n'a pas fait un peu semblant de voter parce qu'on sait que cette réunion va arriver et qu'on était un peu dans l'extrême dernière limite au fond, parce qu'on sait effectivement que sans les bailleurs, les élections sont même financées par ces bailleurs. Donc sans les bailleurs, il n'y a plus d'Afghanistan du tout.
Oui, mais enfin, il y a quand même eu des élections législatives par trois fois depuis la chute des talibans. Il y a eu des élections présidentielles. Je pense que les présidentielles de 2019 auront lieu. Il y aura peut-être un retard, mais elles auront lieu. C'est dans l'intérêt de tous les partis. Et Dieu sait que la vie politique afghane est complexe. Même si d'ailleurs un peu le paradoxe de ces élections législatives, c'est qu'il n'y a pas de groupe parlementaire au Parlement afghan. C'est-à-dire que même parmi les quelques 2500 candidats, c'est-à-dire 2500 personnes dont plus de 400 femmes qui ont eu le courage de se déclarer candidat.
Pour 249 postes.
Pour 249 sièges. Dix candidats ont été tués pendant la campagne électorale. Donc il y a, c'est vraiment l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. On peut tout à fait, en Afghanistan même, les critiques se sont multipliées sur la gestion de ce scrutin dans des conditions difficiles, parce que c'est quand même un scrutin qui a lieu dans un contexte de guerre civile, au moins dans un certain nombre de provinces afghanes.
Alors comme vous le disiez, Jean-Luc Racine, effectivement, il y a un certain courage pour se présenter, pour être parmi ces 2500 candidats, un certain courage aussi pour aller voter, parce que c'est devant les bureaux de vote que les talibans ont attaqué parfois, je le disais tout à l'heure, il y a eu presque 40 morts, une quinzaine à Kaboul. Je voudrais qu'on écoute des sorties de vote justement prises par Sonia Ghezali et pour bien comprendre effectivement à quel point les gens qui ont voté, à la fois le font par conviction et aussi pour marquer quelque chose d'important pour eux. Écoutez.
Quand je suis sortie de la maison, j'étais très stressée, j'avais peur. Une fois que je suis arrivée au bureau de vote, j'ai vu la police et je me suis sentie mieux.
Nous n'avons pas peur des talibans, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Parce qu'un vote peut changer l'avenir d'une personne.
Nous devons prendre des risques. Si on se laisse dominer, on reste enfermé chez soi. Nous devons prendre le risque.
Je vois que ces élections sont un échec. Il est 8h15 et certains centres ne sont toujours pas ouverts. Les agents auraient dû être à 6h sur place pour prendre leur poste à 7h et être prêts à temps. Donc je rentre et je vais écrire à la commission électorale pour me plaindre.
Le système biométrique fonctionnait, mais c'est un peu long. Ça m'a pris 20 minutes. Mais les gens doivent se montrer patients.
Un bon padel finalement, Jean-Luc Racine, de ce que peuvent ressentir les gens. En fait, j'y vais, je sais pourquoi j'y vais, et en même temps, parfois, une très grosse déception aussi.
Oui, la déception a été due aux difficultés qu'il y a eu à organiser le scrutin. Il faut savoir aussi que dans beaucoup de bureaux de vote, ce sont les instituteurs qui tiennent le bureau. Et il y a eu un appel spécifique des talibans contre les enseignants, en les appelant à faire en sorte que leur école ne serve pas de bureau de vote. Mais il y a eu aussi des problèmes d'organisation qui tiennent tout à fait à la commission électorale. Et puis cette histoire voulue par l'opposition au président Ashraf Ghani d'avoir des contrôles biométriques, tout ça a été fait au dernier moment et c'est pas tout à fait étonnant qu'il y ait quelques problèmes.
Alors, qu'est-ce qui lui reste à ce président Ashraf Ghani comme légitimité réellement, Jean-Luc Racine, quand on songe par exemple que il y a très peu de temps, les Américains ont commencé à négocier en face à face et réellement avec les talibans. Est-ce qu'on n'est pas en train de lui dire, de toute façon, tu es décrédibilisé? Est-ce qu'on n'est pas presque en train de l'humilier, en fait, quand on est les Américains en ce moment?
Je ne crois pas. Il y a une ambiguïté américaine sous la présidence Trump, ce qui ne surprendra personne. Mais même si le représentant spécial de Trump pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, qui est d'origine afghane et ancien ambassadeur à Kaboul, a eu en quelque sorte le culot d'aller à Kaboul avant de rencontrer les talibans, sans prévenir, si mes informations sont bonnes, sans prévenir le pouvoir, mais il est revenu après pour leur dire ce qui avait été discuté. Mais la ligne générale, que ce soit la ligne des Américains, ou de tous ceux qui sont en contact avec les talibans, les Chinois, les Iraniens, les Russes, et j'en passe, c'est de dire, on sait bien que, in fine, ce devrait être un dialogue entre les représentants de Kaboul et les représentants des talibans. La marge de manœuvre pour les Américains, c'est de savoir si, au dernier moment, Trump ne va pas décider, bon, après tout, on s'en va.
Mais c'est ça.
Alors qu'on sait très bien, sans être militariste, que si les Américains s'en vont, le régime sera extrêmement fragilisé, quelle que soit la valeur et le prix du sang payé par les soldats afghans.
Donc, mais est-ce que ça ne veut pas dire ça quand on va voir directement les talibans? Est-ce que ce n'est pas la preuve que les Américains n'ont qu'une hâte, c'est de partir finalement?
Alors ça peut s'interpréter différemment dans la mesure où les talibans considèrent depuis longtemps, et l'affichent en tout cas, je ne sais pas s'ils le considèrent vraiment, mais l'affichent en disant que le pouvoir de Kaboul, ce n'est que les marionnettes des Américains. Nous, notre ennemi, c'est les Américains. Nous sommes des islamistes nationalistes. Ce qu'on veut, c'est que les troupes d'occupation se retirent. Les troupes d'occupation, pour l'essentiel, c'est les Américains. Donc, on est prêt à négocier avec les Américains.
Mais alors, jusque-là, il y a eu... Parce que c'est pas la première fois qu'on tente de négocier avec les talibans.
Ça fait des années.
Alors jusque-là, on a chopé sur le donnant-donnant, en gros.
Oui.
Le donnant-donnant, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que les Américains promettent aux talibans, finalement?
Bon, ils ne promettent rien. Pour autant qu'on sache. C'est-à-dire qu'il est peu vraisemblable qu'ils acceptent de retirer totalement leurs troupes. On parle de négociations, mais très incertaines, pour savoir si les talibans accepteraient qu'il reste des bases américaines. Une, deux, peut-être. Mais fondamentalement, la partie se jouera quand même in fine entre Kaboul et les talibans. La question est de savoir, est-ce que les talibans sont unis ou est-ce qu'il y a des factions parmi eux? On sait qu'une partie difficilement quantifiable, opposé totalement à toute négociation a rejoint Daesh, puisque l'État islamique du Khorasan, puisque c'est le vieux nom de la région afghane, existe maintenant officiellement depuis 2015. dirigée depuis longtemps par des talibans pakistanais et non pas afghans. Mais il y a aussi la question des islamistes d'Ouzbékistan, éventuellement des Ouïghours, et ça, ça inquiète au plus haut point Pékin.
L'exécutif, pour l'instant, c'est 56%, on va dire, du territoire. Donc le reste, c'est les talibans. Si les talibans avaient plus la main, peut-être à la faveur des Américains, ou s'ils étendaient ce territoire, voire s'ils pouvaient surpasser l'exécutif, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que l'Afghanistan redevient le sanctuaire terroriste qu'il a été? Vous avez parlé de Daesh tout à l'heure. Est-ce que c'est une porte ouverte? Est-ce que c'est à nouveau un repère? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là?
Alors, il y a un nouveau discours talibans, puisque les talibans qui étaient contre les photos, contre les films, maintenant c'est plus simplement les lettres qu'on affiche la nuit sur les mosquées pour mettre en garde, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est des sites multilingues, c'est des magazines. Donc on a des déclarations officielles disant si nous revenons au pouvoir, et non pas quand nous reviendrons au pouvoir, c'est intéressant, si nous revenons au pouvoir, ce ne sera pas la même chose que la première fois.
Est-ce que la raison pour laquelle ils le disent, c'est parce qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui, quand on est un taliban, d'influer sur la scène du terrorisme international ou pas? C'est ça la raison?
Non, je crois que fondamentalement, ils prennent quand même une certaine distance vis-à-vis d'Al-Qaïda, parce que bon, ils ont sacrifié leur régime pour Ben Laden. Ça, c'est clair. Donc, eux, ce qui les intéresse, et c'est pour ça qu'ils s'opposent largement à l'État islamique, ce qui les intéresse, c'est la nation afghane. C'est d'essayer de revenir au pouvoir. Mais ils savent en même temps que la société a commencé à bouger. On assiste sur place dans les régions où qu'ils contrôlent, où ils ont une présence réelle, à des espèces de d'aménagements où ils ont un mot à dire sur l'école, ils ont un mot à dire sur l'hôpital, et en même temps les maîtres et les médecins du gouvernement sont toujours là. Il y a une espèce de co-gestion qui s'appuie aussi sur des réseaux, sur les anciens. Donc la grande question est de savoir si ils reviendraient vraiment à ce qu'étaient leurs positions les plus ultra, ou s'ils sont prêts à se modérer un peu. Je souligne quand même que quand Ashraf Ghani a proposé un cessez-le-feu en début d'année, il y en a un qui a tenu pendant 3 jours, la deuxième proposition n'a pas été entendue par les talibans, mais Ghani ne mettait plus de conditions au dialogue.
Qu'est-ce qui se passe avec les voisins, Monsieur Racine? On imagine bien jusqu'à quel point l'Iran n'a pas intérêt à un Afghanistan complètement déstructuré, parce que ça veut dire une arrivée massive de son côté. On comprend pourquoi l'autre voisin, celui du Pakistan, a plutôt envie, voire besoin d'un Afghanistan déstructuré. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font les voisins aujourd'hui? Qui tire quelle ficelle au moment où on se parle?
Alors, le Pakistan, c'est évidemment la question la plus complexe, puisque le Pakistan était supposé être une partie de la solution, et on s'est demandé, et on se demande toujours, s'il n'est pas une partie du problème. Alors, dans les discours ne veulent rien dire. Dans les discours, tout le monde est pour un Afghanistan stable,
bien
et tout
sûr.
Ça. Donc, la vraie question est de savoir ce que les Chinois peuvent faire, pas seulement pour défendre leurs intérêts, mais aussi faire éventuellement pression sur les talibans. Ça reste très incertain. Les États-Unis ont clairement durci leur position. C'est-à-dire, au-delà du discours « faites plus », l'aide militaire et les financements pour l'armée pakistanaise se sont restreints clairement sous la présidence Trump. Les Russes font leur retour dans la région. Les Iraniens ont des contacts avec les talibans, alors qu'il faut savoir qu'au départ, les talibans avaient mené des attaques contre les diplomates chiites. Tout ça est terminé. Chacun veut essayer d'écarter la menace de l'État islamique dans la région.
Et on verra comment les choses se poursuivent. Résultat, dépouillement en ce moment. Résultat, le 10 novembre, ça nous donnera peut-être une forme d'enseignement. On verra ce qui se passe derrière dans ce pays si perturbé. Jean-Luc Racine, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthèse, Un jour dans le monde.
Ensuite, avec les artistes syriens réfugiés au Liban, photographes, dessinateurs, graveurs, qui peuvent recommencer à exposer, dont les œuvres disent, expriment évidemment ce qu'ils ont vécu en Syrie. Vous le découvrirez avec Aurélien Colli sous les radars et Amélie Perrier, ou comment notamment les psys au Brésil accueillent des gens effrayés de l'arrivée potentielle de l'extrême droite au pouvoir. Julia Foïs est là aussi. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Comme tous les mardis, pour nous rappeler qu'un homme sur deux est une femme.
C'est ça.
Et comment ça, il y a du porno féministe alors?
Et peut-être même que les sociodémocrates allemands pourraient le soutenir. On va parler aussi de religieuses qui n'ont pas le droit de vote et d'hommes qui, eux, ont droit à la couvade.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers. Cyril Sauvageau, bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Et dans l'affaire Khashoggi, où est l'Iran?
Eh bien, l'Iran pourrait peut-être tirer profit de cette affaire. On aura remarqué en tout cas le silence quasi total de Téhéran dans cette affaire. On en parlait.
Tout à l'heure, 18h55, Cyril, le tour du monde est en cours. Détendez-vous, regardez par le hublot, nous sommes au-dessus du Royaume-Uni. Jonathan Jeremiah, good day. I see the kids, them running on by. Got that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. Busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the ninth street with the sun on my back. Yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the heron grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. The busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. Jonathan Jeremiah, good day sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier, le rendez-vous incontournable, Amélie, de toutes les forces armées de l'OTAN pour commencer.
L'exercice a été baptisé Trident Juncture 18. Il débute aujourd'hui en Norvège.
Our mission is to defend our country. With large ocean areas and
ça, c'est un clip de la défense norvégienne qui explique les missions à grand renfort d'image très cinégénique et souhaite la bienvenue à ses partenaires. Le pays accueille jusqu'au 7 novembre 50 000 soldats de 29 pays membres. On parle des plus grandes manœuvres militaires de l'OTAN depuis la guerre froide. Objectif, s'entraîner à secourir un des membres de l'Atlantique Nord en cas d'agression. Aucun pays visé en particulier officiellement, mais la Russie est dans tous les esprits. Le Kremlin a mené ses manœuvres en Extrême-Orient en septembre et les menaces de Donald Trump de se retirer du traité sur les armes nucléaires, de repartir dans une course à l'armement, ajoutent encore aux tensions. D'ailleurs, indépendamment de cet exercice, les États-Unis et le Royaume-Uni vont installer progressivement davantage de troupes en Norvège pour les acclimater au grand froid, nous dit-on.
Eh ben, c'est utile. Le Brésil a peur, Amélie, alors pas d'une guerre imminente, là, mais de son prochain président.
Et oui, des psychanalystes partout dans le pays témoignent aujourd'hui de la violence et de la panique ressentie par leurs patients à cause notamment de lui.
Fica aqui pra ouvir! Isso é presente, eu sou no portão a partido
Reconnu, c'est Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, nostalgique de la dictature militaire. Il est habitué à des dérapages verbaux, comme ici au Parlement. Alors, il part favori au second tour de dimanche prochain. C'est le journal El País qui révèle les conséquences déjà de cette élection sur la santé mentale des Brésiliens. Le quotidien relate le témoignage d'une jeune patiente, par exemple, en larmes chez son médecin. À l'école, elle a trouvé ce mot dans son casier. Tu as vraiment cru qu'il suffisait de sortir dans la rue et de crier Helena, pas lui en portugais, pour stopper Bolsonaro, et elle se fait traiter ensuite de féminazie et elle se fait menacer des pires violences. Alors la psy Ilana Katz a posté un article titré « Être analyste en temps de haine ». Elle écrit, je cite, « Au cours des deux dernières semaines, la haine s'est installée sur mon divan pour ne plus en sortir. » L'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, au nom de l'éthique du bien-dire, s'est publiquement opposée au discours de la haine d'autrui. De même pour l'école brésilienne de psychanalyse, je cite, « On oublie que les mots s'enracine dans l'histoire, les oreilles et le corps d'un pays. Ça ne vaut pas forcément que pour le Brésil.
Amélie, si l'arme fatale contre la faim en Afrique avait la forme d'un petit haricot?
Oui, au Burkina Faso, un grand chef coutumier y croit, Victor Tiendré Beogo. Il est devenu le meilleur agent commercial pour le haricot mongo, mung bean en anglais, une légumineuse qui renferme peut-être le salut du pays.
C'est le salut de la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté au Burkina. C'est le salut aussi d'une alimentation saine et une alimentation qui soigne. Et aussi, les Burkinabés seront aussi solides que les Indiens parce qu'elles consomment des alicaments que le mung bean.
Alors, le haricot magique vient en effet d'Asie, semble se plaire dans la ferme du Naba Tigré, le chef de l'abondance, comme on l'appelle ici, à une quarantaine de kilomètres de la capitale, Ouagadougou. Ce chef coutumier, il a planté le haricot pour la première fois il y a 4 ans. Aujourd'hui, le pays compterait près de 10 000 producteurs, 10 à 15 000 tonnes de récolte attendues en avril. Son principal atout, le haricot s'adapte à des conditions climatiques difficiles, parfait donc pour ces terres arides où les pluies sont rares. Et le Naba a décliné les recettes du couscous, de la farine de haricots, du pain, du jus. C'est un alicament, donc, selon le chef, qui voit le moyen d'éradiquer la faim dans le pays d'ici 10 ans. En tout cas, le haricot cultivé en agriculture biologique ici est un espoir après le fiasco du coton transgénique. Le coton de Monsanto, testé à partir de 2003 au Burkina, a provoqué de sévères pertes aux compagnies du pays. Les variétés donnaient plus de coton, certes, mais avec des fibres plus courtes, de mauvaise qualité. Alors le Naba Tigré, lui, il a tranché. Il préfère le haricot mongo bio au coton, au GM.
Et est-ce qu'il est bon, le haricot?
Faut qu'on aille le goûter,
bah, écoutez,
Fabienne.
Bah, voilà.
Partons au Burkina.
Attendez, faites votre travail jusqu'au bout. Ramenez-nous.
Allez, c'est parti.
Que diable. Merci, à demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mexica,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Liban que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, à Beyrouth, qui a toujours été un phare, un refuge pour la culture, même au pire moment de son histoire, et qui le reste pour ses voisins. Depuis le début de la révolution et de la répression en Syrie, donc en 2011, Beyrouth accueille plus d'un million de réfugiés syriens, et parmi lesquels de nombreux artistes dont les œuvres sont marquées, vous l'imaginez, parce qu'ils ont vécu. Aurélien Colli, vous allez nous emmener dans une promenade dans Beyrouth à la rencontre de deux de ces artistes dans ce Beyrouth donc culturel et peu connu par nous.
Je me trouve dans le quartier de Jeitaoui, dans la partie est de Beyrouth. Je suis en train de m'éloigner de la circulation chaotique qui caractérise Beyrouth aux heures de pointe. Je suis dans une petite rue qui monte assez fort avec des immeubles délabrés qui sont en train d'être retapés. Alors je vais retrouver Mohamed Rayata, il a une trentaine d'années. C'est un artiste syrien qui s'est réfugié à Beyrouth il y a 6 ans.
Bonjour.
Studio.
L'atelier de Mohamed, c'est un petit appartement, des dessins sur les murs, des objets, des pots de peinture par terre. Au fond, je vois aussi des toiles entassées. Il est en train de déballer une série de photos dont on va parler. Ça s'appelle « Stitching my Syria back », qu'on pourrait traduire par « Recoudre ma Syrie ».
En 2011, quand les événements ont commencé, c'était difficile de se balader avec un appareil photo. Donc j'ai travaillé chez moi. La couverture colorée, c'est un patchwork, comme ma mère en faisait.
La première photo, je vais la décrire, une pièce sombre avec au centre une couverture en patchwork multicolore. Il y a des gens cachés derrière la couverture, mais on ne voit que des pieds et des mains qui dépassent. Et puis au premier plan, assis sur un vieux fauteuil, une personne recouverte d'un drap noir.
C'est comme si la Syrie était en plusieurs morceaux et que tu es en train de la recoudre, comme le patchwork. Des morceaux qui, ensemble, font une jolie couverture. Peut-être que le pays peut se réunifier. Peut-être que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas que mauvais, que ça a permis d'éclaircir des choses.
Merci beaucoup.
Shukran.
Alors Mohamed me disait que Beyrouth lui avait fait du bien quand même, que dans ce poumon artistique du monde arabe, il avait pu s'exprimer, il avait pu se soigner un peu à travers ses œuvres. Pour l'instant, il ne peut pas rentrer en Syrie, comme une autre artiste qu'on va retrouver maintenant dans un petit jardin plus calme du quartier voisin de Jemaizé. Elle a été arrêtée par le régime syrien, elle a passé 4 mois en prison avant d'être libérée et de se réfugier dans la capitale libanaise.
Bonjour, je m'appelle Azza, je suis diplômée en gravure de l'université de Damas. Je suis arrivée au Liban en 2017 et j'ai 38 ans.
Alors Azza a pris son ordinateur pour nous montrer une série de gravures qu'elle a réalisées cette année et qu'elle a intitulée « Traces » au pluriel. Je décris les deux premières gravures, le trait est haché, il y en a une avec un homme et une femme qui s'enlacent. L'un fait le signe V de victoire, la deuxième gravure elle est horizontale et à droite on voit des silhouettes noires qui tirent, à gauche il y a des fantômes blancs courbés comme fauchés par des balles.
Ça, c'est le début, une manifestation de civils avec des jeunes. Il n'y a pas d'islamistes ou autres. On était tous ensemble pour demander la liberté. Après, la répression commence et c'est l'autre gravure. Il y a le blanc, les revendications, et le noir, la répression, comme une guerre du noir contre le blanc.
Autre gravure, cette fois elle est assez crue, c'est une femme qui est nue, accroupie, les mains en l'air, les yeux écarquillés. Alors à sa gauche on distingue un pantalon et une botte de militaire, et à sa droite une femme recroquevillée.
Ça, c'est quand tu es transféré dans un des centres des services secrets. On te déshabille, on t'accroupit pour te fouiller, être sûr que tu n'as rien sur toi ou dans toi. C'est déjà une humiliation. À côté, c'est une prisonnière qu'ils obligent à te fouiller intimement, à mettre son doigt dans tes parties génitales. C'est humiliation sur humiliation, la première cassure.
On va décrire une dernière gravure, c'est juste un visage tuméfié, déformé, en fait c'est un homme cette fois, et la particularité c'est que c'est dessiné d'un seul trait de crayon en continu.
C'est un des martyrs, je me rappelle de leur visage. Très souvent, ils me reviennent dans la tête, des gens que je croisais qui ne sont plus. Mais malgré tout ce qu'ils nous ont fait, ils ne peuvent pas tout effacer, nous faire oublier ces gens. Personne ne peut te prendre ces visages ancrés dans ta mémoire.
Alors Azza, elle a aussi dessiné beaucoup de portraits de femmes qui étaient en prison avec elle, encore des images qui sont gravées dans sa tête. Quand elle a été libérée, qu'elle s'est réfugiée à Beyrouth, elle a pensé à se suicider, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et puis en fait, elle s'est dit que la solution, c'était de reprendre le dessin pour évacuer bien sûr sa souffrance et puis pour témoigner aussi. Pour l'encourager, pour la soutenir, il y a une petite galerie philanthropique où je suis en train d'aller, dans le même quartier, celui de Jemaizé. Elle a aidé Azza, elle a aidé Mohamed, elle a aidé d'autres artistes syriens dont les œuvres commencent à être connues et reconnues dans le monde entier. Et c'est avec celle qui tient la galerie qu'on va clore ce reportage.
Bonjour, je suis Nelsi Massoud. Bienvenue à la galerie 392 Rmel, 393, à Jemaizé. C'est malheureux, mais c'est dans l'histoire, c'est comme ça. Les plus beaux tableaux sont venus soit d'une misère, soit d'une guerre, soit d'une situation horrible. L'artiste éclate et il ressort des choses non seulement personnelles, mais pour la société. C'est ça la fonction d'un artiste, de provoquer une société, de l'émanciper.
Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui à Mohamed d'un côté, et puis qu'est-ce que vous souhaitez à Azza?
Aux deux, je souhaite une même chose, qu'ils puissent aller voir leurs parents en Syrie, qui est à 2 heures d'ici. Et pourtant, ils ne peuvent pas le faire.
Aurélien Colli, à Beyrouth pour Un jour dans le monde. Merci Aurélien et à très vite. Marvin Gaye est sur France Inter. Let's Calydon. Marvin Gaye, Let's Get It Done sur France Inter. Aux abris, voici Julia Foyce.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Julia qui arrive à chaque fois qu'il est bon de rappeler qu'un homme sur deux est une femme, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, à minima. Et à chaque fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. On commence avec la bonne idée de la semaine, Julia.
Elle nous vient d'Allemagne, Fabienne, et plus précisément du SPD. Les sociodémocrates veulent intégrer dans leur programme des subventions aux films pornographiques féministes. Et là, vous me dites que, du porno féministe, si.
Eh ben oui, mais si, quoi si, donc que celle-ci
c'est très minoritaire dans une industrie faite principalement par et pour des hommes. Évidemment, mais un certain nombre de réalisatrices venues pour la plupart des pays du Nord osent glisser un œil derrière la caméra pour mettre en scène des fantasmes à elles, plus à même sans doute de titiller le désir d'une bonne partie de la population. Combien on est déjà ? Ah oui, la moitié de l'humanité. Résultat, ça donne par exemple Dirty Diaries, collection de courts-métrages suédois, un must en la matière sorti en 2009.
Non mais j'aurais...
Alors oui.
Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire de mon émission ?
Oui, alors j'entends bien. Il y a des soupirs, mais pas de râles gutturaux qui vous décrochent l'oreille à force de vouloir vous la caresser. Et qui soupire ? Madame, qui certes a une jolie poitrine, mais pas de double airbag. Monsieur est joliment doté lui aussi, mais c'est pas monstrueux. Et a priori, ça passe tout seul sans faire mal à madame, mais pas tout de suite, non. On attend, on se caresse, on s'embrasse. Ici, dans ce porno-là, il y a des préliminaires et oh mon Dieu, des préservatifs ! En tout cas, c'est joli, plutôt bien filmé, suffisamment d'ailleurs pour que ça puisse plaire aussi à un public masculin. Essayez, hein, vous verrez. C'est gratuit
c'est
et c'est simple.
C'est vous dites ça qui vient d'arriver.
Je pense à Fabrice, le réalisateur dans une émission qui a beaucoup cherché de son aujourd'hui.
C'est vrai.
Qui a fouillé dans les archives porno de la maison de la radio. Il n'y en a pas beaucoup, faut dire. Bref, vous verrez, c'est gratuit. C'est simple comme un coup de clic sur Internet. C'est justement pour ça que le SPD s'en mêle. En Allemagne comme en France d'ailleurs, les jeunes sont de plus en plus consommateurs de porno, désormais en libre accès sur le web. Qu'on adore l'idée ou pas, ils le font. Donc autant leur élargir l'horizon fantasmatique, se sont dit les sociodémocrates, autant proposer autre chose à cette jeunesse que des gangbangs à répétition, des pseudos tournantes dans des vestiaires de gym et des femmes qui se font traiter de chiennes à tout bout de champ, figure de style dominante dans le porno actuel. Mais bon, comment vous dire, Fabienne, vu l'hostilité d'une partie des électeurs allemands sur le sujet, les subventions d'État au porno féministe, c'est pas pour demain. Au moins, le débat est lancé.
Et je suis pas très étonnée, le hi-ha de la semaine.
Entendu vendredi dans les rues de Montevideo, c'est la joie des militants LGBT après le vote d'une loi historique en faveur des personnes trans. Les chirurgies de réassignation et les hormonothérapies accompagnant le changement de sexe seront désormais intégralement remboursées. Au-delà, le texte reconnaît à quiconque le droit de s'auto-déterminer comme homme ou comme femme. L'Uruguay devient ainsi l'un des pays les plus avancés en la matière dans le monde, si ce n'est le plus avancé en Amérique latine. Le mariage homosexuel et l'adoption par des couples d'hommes et de femmes y est autorisé depuis 2009, et la PMA pour toutes. Oh là, ça fait bien 12 ans maintenant.
Allez, la main tendue de la semaine.
Tendue aux femmes par le Vatican, réunie en synode en fin de semaine dernière à Rome, les évêques ont invité des religieuses à se joindre au débat. Et bah oui, comme quoi on peut porter calotte et accorder aux femmes le droit de porter cerveau, le droit de s'en servir, même, surtout, quand ça les concerne directement. Le thème du synode, la place des femmes dans l'église, l'éducation des jeunes filles et, je cite, la nécessaire lutte contre la culture machiste du dogme et de l'institution. Si, si. Du coup, les femmes étaient là. Cette fois, elles étaient au moins 12, les religieuses, soit 10% des participants. Ok, c'est pas beaucoup, mais elles ont pu parler à la pause café, notamment, disait l'une d'entre elles à l'AFP, un peu plus rarement en séance, c'est vrai. Alors évidemment, comme seuls les hommes ont le droit de vote au synode, elles n'ont pas eu leur mot à dire sur le texte final. Une pétition a bien circulé pour ouvrir le vote aux femmes. Mais bon, comme le rappelait l'un des participants, c'est pas de la faute des évêques si Jésus n'a choisi que des hommes comme apôtres. Bah oui, c'est comme la pomme, hein, c'est pas la faute d'Adam non plus. Hein.
Non,
mais
bah non.
Point de polémique, ici nous sommes paix et communion. Réjouissons-nous que des femmes aient été invitées à participer, parce que du coup, elles ont tout bien écouté quand les hommes ont parlé.
On termine avec le chiffre de la semaine, Julia.
10%, c'est le nombre de pères en dépression prénatale, soit, vous l'aurez compris, à l'approche de la naissance. D'après une étude menée par la Haute École de Santé de Genève, des bouleversements psychologiques et physiologiques provoqués par la grossesse toucheraient aussi les futurs papas, la couvade par exemple. 65% d'entre eux connaîtraient, à mesure que le ventre de la mère grossit, ce petit épaississement abdominal, cette ceinture
adipeuse. Donc c'est pas la bière.
Non, non, elle ne doit rien à la bière, mais tout au bébé. Entendez que les pères angoissent, stress, fatigue aussi, Fabienne, sauf que n'ont pas le droit ou n'osent pas se plaindre, pointent les chercheurs. Mais si, plaignez-vous, allez-y, vous et nous dans le même bateau, les mêmes affres, les mêmes angoisses, c'est ça la coparentalité du 21e siècle. Non, mais d'ailleurs, quitte à être partageur, réclamez l'épisiotomie, vous aussi, vous y avez droit.
Julia Foy, très en forme aujourd'hui, Julia, merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Cyril, le bras de fer se poursuit entre la Turquie et l'Arabie Saoudite autour de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le président turc Erdogan a livré sa version des faits ce matin, un discours au Parlement. Et dans cette affaire, un pays est resté très discret jusqu'ici, c'est l'Iran. Mais pourtant, les Iraniens, Cyril, observent avec beaucoup d'intérêt l'affrontement entre Riyad et Ankara.
Et après 3 semaines de silence total, la première réaction officielle de Téhéran est survenu hier avec cette prise de parole du chef de l'autorité judiciaire iranienne. Un meurtre abominable qui révèle la nature du régime monarchique saoudien. Ce sont les mots de l'ayatollah Larijani, un haut dignitaire du régime des Mollahs. Jusque-là, l'Iran s'était bien gardé en effet de commenter l'affaire ou de montrer du doigt les Saoudiens. Plusieurs explications à cela. Difficile d'abord pour un régime autoritaire comme celui de Téhéran de s'ériger en défenseur des droits de l'homme. Et ensuite, eh bien, il était plus commode de laisser s'entre-déchirer la Turquie et l'Arabie Saoudite, les deux grands rivaux dans le monde sunnite, l'Iran chiite, ennemi juré des Saoudiens. N'avait même pas besoin de s'en mêler, c'est tout bénef comme on dit.
Alors en fait, tout ce qui peut fragiliser les Saoudiens et leurs relations privilégiées avec Washington, c'est une bonne nouvelle pour Téhéran.
Faut-il le rappeler, l'Iran et l'Arabie Saoudite se livrent de longue date un combat acharné au Moyen-Orient. Les deux pays ont rompu toute relation, ils s'affrontent indirectement au Yémen, avec d'un côté les rebelles houthis armés soutenus par l'Iran et de l'autre une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, conflit sanglant qui a fait plus de 10 000 morts en 3 ans. Or l'artisan de cette guerre, celui qui a mené l'Arabie l'Arabie Saoudite au conflit n'est autre que le prince héritier Mohamed Ben Salman, alias MBS. Le voir aujourd'hui affaibli, contesté, est une aubaine pour l'Iran, même si, au bout du compte, Téhéran voudrait pouvoir trouver une issue politique à cette guerre qui n'en finit pas. Et d'ailleurs, l'Iran mise à cet égard sur un affaiblissement saoudien après l'épisode Khashoggi.
Alors Cyril, toujours est-il que cette crise intervient au moment même où les États-Unis s'apprêtent à imposer des sanctions économiques contre Téhéran.
Et c'est là que l'équation se complique pour Donald Trump. Le président américain a fait du combat contre l'Iran l'axe principal de sa stratégie au Moyen-Orient. Le régime des Mollahs est accusé de tous les maux. On lui reproche de tirer les ficelles dans tous les conflits de la région, en Syrie, en Irak, au Yémen. Mais l'alliance inébranlable avec les Saoudiens est mise à mal par cette affaire. Outre-Atlantique, des sénateurs réclament des sanctions contre Riyad et tout cela est pour le moins embarrassant pour la Maison-Blanche, alors même que Washington, qui s'est retiré de l'accord nucléaire iranien, est sur le point de sanctionner Téhéran. Dans quelques jours, le 5 novembre, toutes les sanctions américaines seront rétablies, les exportations de pétrole iranien seront touchées en priorité et les États-Unis comptent sur qui ? Eh bien sur l'Arabie Saoudite, évidemment, pour compenser en augmentant leur production de pétrole. Ceci explique peut-être un peu pourquoi Donald Trump a mis autant d'énergie ces dernières semaines à tenter de disculper son allié Mohamed Ben Salman.
Cyril Sauvageau et le monde à l'envers dans Un jour dans le monde. Cyril, merci beaucoup. À demain, dans un instant, c'est le journal de 19h avec Pierre Veil. Juste après, le téléphone sonne et Stéphane Le Neuf en direct du Parlement européen, comme à chaque session, avec une grosse actualité de budget italien, Stéphane.
Oui, effectivement, Fabienne, bonsoir. On va parler gros sous hein, ce soir avec une question. Le budget italien, ce budget du peuple, fera-t-il chuter la zone euro ? Cet après-midi à Strasbourg, pour la première fois, la Commission européenne a rejeté le budget italien. Le gouvernement italien qui a réagi aussitôt en disant « on ne changera rien, le bras de fer est donc engagé, dangereux pour les uns, ambitieux pour les autres ». Ce budget inquiète énormément. Après la Grèce, va-t-on vers une nouvelle crise dans la zone euro ? J'attends vos questions, 01 45 24 7000 et bien sûr sur les réseaux sociaux, Fabienne.
Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve donc tout à l'heure et ce sera juste après le journal de Pierre Veil qui arrive, lui, juste après ça.